merci de me rejoindre et d'accorder ton attention à ce nouvel épisode du Time to Bloom podcast, l'émission qui, contrairement à la poudre, n'exploite personne d'autre que moi, l'unique auteur, réalisatrice et productrice de cette émission 100% indépendante. Tu peux soutenir les créations des épisodes en faisant une donation sur PayPal à timetobloompodcast@gmail.com. Tous les montants sont appréciés, même un euro symbolique, vraiment. Ça me permet de continuer à le produire car l'hébergement est payant et pour chaque épisode, je consacre des journées entières rien qu'au montage, sans compter les semaines entières, parfois des mois de préparation entre les recherches et l'écriture, comme ce fut le cas du dernier épisode. Note que tu peux aussi me soutenir gratuitement en t'abonnant au podcast et en partageant tes épisodes préférés sur tes réseaux favoris. Alors bien sûr, je comprends qu'un épisode comme le précédent peut être embarrassant à poster en story sur Instagram, ayant moi-même eu du mal à surmonter ma peur de prendre position publiquement haut et fort sur ce sujet délicat. Mais tu peux toujours copier le lien et le partager en soum-soum à tes potes TERF. Ceci dit, je voudrais partager qu'à mon immense surprise, je n'ai pour le moment reçu que des messages d'amour, de gratitude et de soutien en réponse au dernier épisode. Il me semble que nous sommes dans une phase où on en a plus qu'assez d'être traités comme des paillassons par les woke et qu'on ne veut plus se laisser faire. En tout cas, merci infiniment pour tous ces feedbacks. Comme d'habitude, ça me fait très plaisir et ça me donne de la force et surtout ça m'inspire de ouf. C'est d'ailleurs grâce à plusieurs auditrices qui m'ont envoyé un récent article du web magazine Slate que je suis tombée sur l'article extraordinaire avec lequel je souhaite commencer ce nouvel épisode. Article qui s'intitule « The word woman is already taken », en français le mot « femme est déjà pris », qui a été écrit par Debbie Hayton, une femme trans, professeure de physique, qui dans sa bio écrit que en tant que personne trans, elle a beaucoup écrit à propos de ce qu'est être trans et comment les personnes trans peuvent trouver leur place dans la société sans compromettre les droits d'autres groupes vulnérables. J'en aurais pleuré de gratitude. Extrait. Je suis une femme trans, c'est donc mon identité, soi-disant, qui est niée. Cependant, je suis aussi professeure de sciences au lycée et je reconnais de la magie quand j'en vois. Bizarrement traduit comme phrase, mais bon, je fais de mon mieux, c'est pas mon métier. Mais bon, comme elle fait référence à l'univers magique de Harry Potter, voilà, c'est pour ça qu'elle dit ça. Bref. Et donc elle dit, les femmes trans sont des hommes, je le suis sans aucun doute, car j'ai fathered, c'est-à-dire la paternité, quoi, de 3 enfants, tandis que les femmes sont des femmes. Les hommes ne sont pas des femmes, et donc les femmes trans ne sont pas des femmes. Quelles que soient les émotions qui entourent le débat, J.K. Rowling a raison. Boum ! Répondez à ça, les acteurs ingrats d'Harry Potter, surtout la Watson, la traîtresse qui défend les droits des femmes à l'ONU, tout ça pour ensuite prendre la parole contre la femme à qui elle doit absolument tout ! Ah là là ! Je poursuis avec un autre extrait. Les préoccupations des femmes sont donc fondées. Les frontières n'ont plus de sens. Si les hommes peuvent choisir de s'identifier pour pénétrer dans les refuges pour femmes, les services hospitaliers, les vestiaires et même les prisons, il serait très naïf d'espérer que les hommes mal intentionnés ne le fassent pas, n'est-ce pas ? Mais enfin, évidemment, quand même. Ils nous violent, ils nous frappent, ils nous tuent, et ce depuis la nuit des temps, mais faudrait que subitement, on croie à leur pureté de cœur. Comme l'a dit Dora Mouto dans Sissy Porn, une de ses stories à la une que je te recommande vivement. Je crois qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup de femmes qui ne comprennent pas l'ampleur de la perversion des hommes, en fait.
Je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui sont vraiment, mais hyper, hyper, hyper à l'ouest, hyper naïves vis-à-vis de la perversion des systèmes et des hommes. Je pense vraiment que leur cerveau arrive même pas à percevoir les machinations, les manipulations à la fois individuelles et systémiques que peuvent mettre en place des hommes pour arriver à imposer leur vision du monde. Et de mon côté, je pense que je vois les choses assez clairement parce que les perversions des hommes je les connais bien, pour la bonne raison que je m'y suis énormément intéressée. Dans ma vingtaine, je me suis beaucoup intéressée au fétichisme, au BDSM, au porno. Tous ces words-là, qui sont des words qui sont adjacents avec l'idéologie trans, vraiment c'est adjacent, c'est des vases communicants. Eh bien, je m'y suis complètement intéressée dans ma jeunesse.
It won't happen in an instant.
Cela ne va pas se faire instantanément. Mais au fil des jours, vous allez commencer à remarquer que votre pénis rétrécit. Quand vous vous doucherez, quand vous urinerez, le déclencheur va grandir dans votre cerveau comme une graine, pas bloom. Et quand elle s'épanouira, vous verrez votre pénis comme il est vraiment. Vous le verrez comme un petit... Enfin bref, je te recommande vivement d'aller voir cette story à la une parce que c'est beaucoup plus parlant visuellement que radiophoniquement en podcast.
Joue avec du maquillage. Regarde des tutos. Apprends à avoir l'air naturel. Apprends à avoir l'air d'être ma putain. Tu aimerais ça, n'est-ce pas? Être ma putain.
Dérangeant, n'est-ce pas? Je continue la lecture des mots de Debbie Hayton. Mais plutôt que de se concentrer sur ses droits, entre parenthèses, je précise donc, parce que je sors les extraits de leur contexte, donc pour se protéger contre le harcèlement et les discriminations, qui évidemment, il y a encore une fois, pas de débat, ne sont en aucun cas ok, personne ne mérite d'être discriminé pour la façon dont il ou elle souhaite mener sa vie, et encore moins d'être harcelé, ça on est absolument d'accord. Fermez la parenthèse. Les militants des droits des personnes transgenres exigent d'être acceptés en tant que personnes du sexe opposé avec un sentiment d'entitlement. Je sais pas trop comment traduire ce mot non plus. C'est genre un droit tellement fort que c'est une évidence et un dû. Donc un dû encore plus grand que la conscience de soi, dit-elle. Et side note, j'ajoute entitlement propre aux personnes de sexe masculin dans notre société. Et bref, elle reconnaît que ainsi, ces militants ont exaspéré un bon nombre croissant de femmes qui voient leurs propres droits compromis. Beaucoup de femmes ont décidé que ça suffit et je ne peux pas les blâmer. En effet, des femmes qui en ont ras-le-bol, il y en a un paquet. Et la dernière célèbre en date, il s'agit de Margaret Atwood, l'auteur de La Servante écarlate, qui a osé demander « Pourquoi ne peut-on plus utiliser le mot femme ?»
May the Lord open.
Bah, tu permets ? Tu empruntes ?
Eh oui, pardon.
C'est gonflé. Blessed be the fruit.
Under his eyes.
Non ! Oh. Moi, je suis en deux. Elle est en prompts, je suis en deux. Et toi, derrière, c'est May the Lord open.
Under his eyes.
Oui, ouais, d'accord. Non, mais ne le dis pas maintenant.
Ouais, elle vient de dire May the Lord open.
Non, mais pas maintenant. C'était pour l'exemple.
Là, bah, dis-le que c'est pour un exemple.
Alors, c'est pour l'exemple. C'est pour l'exemple.
May the Lord open.
Voilà.
Elle a aussitôt été menacée des pires sévices, comme ceux qu'elle décrit dans son livre, morceau choisi de tweets qu'elle a reçu. Mange de la merde. Salope. J'imagine un drone armé d'un flingue. Tes heures sont comptées, vieille sorcière. On a besoin d'exécution à un âge limite comme à Midsommar. J'ai dû googler Midsommar, je connaissais pas, il s'agit d'un atroce film d'horreur. Ferme ta gueule, ferme ta gueule! À jeter dans la même poubelle que J.K. Rowling. MDR, va te faire foutre, droit des trans ou le Glock. On doit retirer les comptes Twitter des vieilles femmes blanches comme leur permis de conduire. Et pour finir, traînez ces personnes se débattant et criant au soleil et laissez-les y brûler. Clairement, c'est un fantasme de TERF, cette chasse sorcière, n'est-ce pas? Si tu vois pas le lien, je t'invite à lire ou relire Sorcière de Mona Cholet, histoire de te rafraîchir la mémoire sur les motifs des exécutions des milliers de femmes.
Environ 60 000 indique Wikipédia.
Et enfin, la troisième figure à laquelle j'ai choisi de m'intéresser, c'est la vieille femme. Parce qu'on s'aperçoit aussi que beaucoup de femmes qui ont été poursuivies pour sorcellerie étaient des vieilles femmes, en fait. Il y en avait aussi des très jeunes, mais il y avait une surreprésentation des vieilles femmes. On en a envoyé au bûcher par centaines. Donc, et il me semblait que c'était l'occasion d'aborder le fait qu'aujourd'hui, la vieillesse reste un problème spécifique pour les femmes. C'est-à-dire c'est drôle pour personne de vieillir, mais il y a un regard social sur la vieillesse des femmes qui est toujours beaucoup plus dur et beaucoup plus disqualifiant en fait que sur celle des hommes.
Debbie Hayton précise, tout cela dépasse les limites de l'encadrement de la liberté d'expression et verse dans le contrôle des pensées. Elle souligne également que cette colère ne fait pas avancer la cause, au contraire, au fur et à mesure que les tensions augmentent, la confiance s'évapore, ce qui est désastreux pour les femmes trans, car sans la confiance des femmes, nous sommes vulnérables. En effet, la menace pour nous ne vient pas des femmes. obviously. Car lorsque les femmes trans, une petite minorité dans la société, c'est elle qui précise, c'est pas moi, sont attaquées, les agresseurs sont presque toujours des hommes. Je m'arrête aussi sur ce passage pour dire à quel point il m'a touchée à la lecture, car j'ai déjà remarqué personnellement qu'en effet, depuis 2019, avec l'histoire des collages dont j'ai commencé à te parler dans l'épisode précédent et sur lequel je vais revenir aujourd'hui, j'ai remarqué qu'en effet, je me méfiais désormais des femmes trans, alors que cela n'avait jamais été le cas auparavant, avant de rencontrer le ou la moindre transactiviste. Jamais je ne m'étais méfiée d'une femme trans, en fait. Au contraire, enfin, j'étais à l'aise, quoi.
Et je précise des femmes trans, car je n'ai pas peur des hommes trans, qui sont de naissance des femmes. Je n'ai pas peur des femmes, j'ai peur des hommes. Même et surtout si ils sont habillés comme des femmes.
Oh, tu vas avoir des gros problèmes,
quoi. Non, mais c'est pour expliquer le discours.
T'es malade.
Mais qu'est-ce que...
Enfin, tu sais ce que tu dis ou quoi?
Mais on peut rien dire ou quoi, merde.
Mais putain, tu vas avoir un point rouge.
Mais non.
Allez hop, ben.
Mais j'explique.
Découpé à la machette, mais... sac poubelle.
Non.
Et hop.
Mais non, mais arrête. Mais
pas dire à la décharge.
Mais non.
Voilà. Ils doivent gagner ma confiance en général, peu importe leur accoutrement. Debbie Hayton, par exemple, a gagné ma confiance. Même si, quoi qu'il arrive, même quand ils ont ma confiance, je me méfie quand même des hommes. On n'est jamais trop prudente. Parfois, on les connaît très bien et ils nous font les pires crasses quand c'est pas les sévices.
Maintenant, alors que je m'étais jamais posé la question avant, je me demande, est-ce que cette personne ne serait pas capable de me menacer, de me traîner au soleil pour que j'y brûle, si j'ose dire qu'elle n'est pas autant femme que moi?
Votre activisme est au top!
Ce passage m'a également beaucoup touchée, car j'ai depuis 2019 toujours, que j'ai été confrontée au sujet pour la première fois, j'ai toujours eu donc depuis l'intuition que ce transactivisme était profondément toxique pour tout le monde, pour les femmes évidemment, mais aussi pour les personnes trans, qui est complètement hallucinant. Quel activisme est à ce point contre-productif, tu vois ce que je veux dire? C'est complètement hallucinant.
Ne changez surtout rien. Vous êtes vraiment au max.
Mais voilà, bref, moi en tout cas, je m'étais toujours retenu l'exprimer parce que, et même dans le dernier épisode d'ailleurs, j'avais envie de le dire, mais je me suis dit que, après tout, je n'avais pas la perspective d'une personne trans, puisque je ne le suis pas personnellement et que j'ai pas de personne trans dans mon entourage suffisamment proche pour me permettre de poser la question. Donc voilà, j'avais cette intuition, mais je l'exprimais pas. Et du coup, quand je l'ai lu dans ces mots, ça m'a vraiment tellement émue parce que c'est juste absolument évident et c'est tellement désolant. Pour moi, en fait, c'est comme de militer pour les droits des animaux en tabassant les véganes qui n'iraient pas activement militer pour la cause des animaux. Ils sont déjà véganes, en fait, tu vois, je veux dire, ils font déjà ce qu'ils peuvent. Tu vois, genre, à la rigueur, si toi tu veux aller manifester, vas-y, mais ne tape pas sur les véganes, tu vois ce que je veux dire? Je sais pas si c'est un très bon exemple, mais pour moi, ça me paraît clair. En mode... Ouais, je te veux aucun mal, en fait. Je fais déjà de mon mieux pour faire avancer la même cause. Qu'est-ce que c'est ton fucking problème, quoi? Anyway, Debbie Hayton conclut son article en ces termes. En tant que femme trans, nous avons beaucoup de travail à faire pour rétablir l'équilibre. Premièrement, nous devons être honnêtes. Nous sommes des hommes et donc pas pareils que les femmes. Deuxièmement, bien que nous ayons besoin de trouver la validation, nous devons la rechercher non pas tant chez les autres que chez nous-mêmes. Which is a very powerful statement, especially as a yoga teacher, like... It touches my heart like day down. I realize I'm talking in English. It's ridiculous because I've been translating an English text. Anyway. Si nous ne nous acceptons pas, comment pouvons-nous nous attendre à ce que les autres nous acceptent?
Can I get an amen? Can I get an amen? If you can't love yourself, how in the hell you're gonna love somebody else? Say amen.
Nous pouvons regarder vers l'extérieur, mais d'une manière différente, en mettant l'accent sur l'empathie plutôt que sur l'attente vis-à-vis des autres. Et nous devons reconnaître que le mot femme est déjà pris.
Amen. Can I get an amen? If you can't love yourself, how in the hell you're gonna love somebody else?
baby, I love you, I love you, I love you, I love you, I love her so much. D'ailleurs, je lui écris sur le champ via le formulaire de contact de son site pour lui dire combien j'avais été émue par ses mots et pour la remercier de les avoir publiés. Elle m'a très gentiment répondu merci en français parce que j'avais signé mon mail Love from a French Sister et elle a ajouté je vous remercie pour vos aimables paroles. Nous devons continuer à lutter en ces temps difficiles. All of us, meilleurs vœux. Et all of us, c'est difficile à traduire en français puisque la langue anglaise est beaucoup plus inclusive que le français et du coup all of us, ce serait nous tous puisque le masculin l'emporte.
Et que désormais, ça m'arrache la gueule de dire nous toutes.
Mais bon, voilà, t'as capté quoi. All of us, c'est ensemble quoi. Bref. Et lutter, c'est précisément le terme sur lequel j'ai envie de rebondir pour te parler de
celle dont on ne doit pas prononcer le nom.
Marguerite Stern, ex-femme et queen badass qui a dévoué sa vie entièrement à la cause des femmes, ok? C'est pas juste quelque chose qu'elle fait sur ses heures libres, c'est une dévotion absolument totale de sa vie. Elle a notamment mené une action pour dénoncer la politique de Poutine en Ukraine. Est-ce que tu peux faire plus badass que ça? Elle a également fait un mois de fucking tôle en fucking Tunisie pour avoir demandé la libération d'une activiste tunisienne. Fucking qui peut se vanter d'avoir une telle dévotion pour la cause des femmes que Marguerite Stern? Oui, comme certaines se donnent beaucoup de mal à invisibiliser le nom d'une des femmes les plus importantes de l'histoire de la lutte féministe de notre époque, je vais me faire un malin plaisir à faire exactement l'inverse et à mettre un point d'honneur à le dire et à le répéter. Marguerite Stern, Marguerite Stern, Marguerite Stern, Marguerite Stern, Marguerite Stern. Et ben la réponse à cette question, je te le donne en mille, mais c'est certainement pas les petites woke aussi violentes que l'âge qui la menace, l'insulte, l'harcèle, l'agresse et désormais donc l'invisibilise au titre que son féminisme n'est pas féministe s'il n'inclut pas les femmes trans. La deuxième chose, c'est que je trouve détestable qu'un outil aussi important que l'écriture inclusive et qui est censé servir les intérêts des femmes soit désormais utilisé pour les invisibiliser. On n'utilise plus les mots « femmes » et « hommes » pour parler de sujets spécifiques comme les règles par exemple. On parle désormais de personnes à vulve. Eh bien, je considère que cela m'invisibilise. Non, je ne suis pas une personne à vulve. Je suis une femme, je suis née femme et avant même ma naissance, dans le ventre de ma mère, j'ai subi des discriminations de ce fait. J'ai subi des choses qu'un homme qui voudrait devenir une femme ne pourra jamais appréhender. Voilà un extrait des propos qu'elle a tenus dans un thread publié sur Twitter en janvier 2020 qui lui valent un déferlement de haine auquel beaucoup n'auraient pas survécu. Et ça me semble extrêmement important de le rappeler aujourd'hui à l'heure où encore une jeune femme s'est donné la mort à cause du cyberharcèlement. Hashtag justice pour Dina. Au passage, je ne sais pas si on doit vraiment le rappeler, mais quand même, hein, je vais le faire, le harcèlement est un crime qui est puni par la loi et qui n'est absolument jamais excusable. De plus, je suis à peu près sûre que si Debbie Hayton lisait le thread de Marguerite Stern, peut-être ne serait-elle pas en accord avec tous les points qu'elle développe dans ce thread, mais en tout cas, j'en suis certaine, elle serait bien plus choquée et embarrassée par la violence à laquelle Marguerite Stern fait face depuis bientôt 3 ans que par la violence transphobe, entre guillemets, de ses propos. Heureusement que Marguerite Stern est forte, très très forte psychologiquement. Je sais pas combien de personnes peuvent résister à une telle pression en fait. Parce que en plus dans son cas, la frontière du cyberharcèlement, elle a déjà été franchie plusieurs fois. Elle a déjà été agressée physiquement en manifestation. Elle a aussi déjà dû effacer des menaces de mort sur la porte de chez elle. Et elle a été contrainte de déménager plusieurs fois. Non mais je sais pas si tu réalises en fait. Je sais pas si tu te rends compte de l'ampleur de la galère et de la peur que ça doit être pour Marguerite Stern de vivre dans ces conditions. Combien c'est inacceptable de traiter une femme de cette façon pour ses idées de nos jours.
Alors après, parmi celles qui pouvaient être accusées, il y avait vraiment toutes sortes de femmes. C'est-à-dire, il y avait autant, ça pouvait être des guérisseuses qui avaient exercé, enfin, il y avait toujours eu des guérisseuses, et tout d'un coup, leur activité qui était pratiquée auprès des villageois, auprès du peuple, enfin, c'était les seuls médecins du peuple, en fait, à l'époque, tout d'un coup, cette activité a été perçue comme suspecte et diabolique, alors qu'auparavant, elle était complètement tolérée et normale. Et puis après, ça pouvait être vraiment n'importe quelle femme dont le comportement était jugé déviant, c'est-à-dire ça pouvait être la vieille voisine qui passait en grommelant dans la rue, et voilà, tout d'un coup un enfant tombait malade, donc on faisait le lien avec elle, on l'accusait de l'avoir empoisonnée ou de lui avoir jeté un sort. Et c'était une sorte de mécanisme de bouc émissaire en fait, c'est-à-dire pour tout ce qui pouvait aller de travers dans une communauté. Les femmes un peu suspectes, un peu marginales, faisaient des cibles idéales.
Ça me plaît de glisser une interview de Mona Chollet dans cet épisode dédié à Marguerite Stern pour une bonne raison, c'est que peut-être le seul texte que je n'aime pas de cette autrice, c'est l'article qu'elle a écrit et publié dans Le Monde diplomatique, où elle tacle le féminisme des femmes parce que c'est pas assez intellectuel de montrer ses nichons pour faire passer un message, ce qui est quand même pourtant prodigieusement courageux. Voilà, ça c'est juste une petite side note.
Une femme qui en plus n'a pas les moyens de se protéger ni de se défendre comme J.K. Rowling ou Margaret Atwood ou encore Dave Chappelle. Bon, c'est pas une femme, mais bon, t'as compris ce que je veux dire. Il n'y a pas les moyens derrière. Genre, la meuf, elle est toute seule pour encaisser et faire face à tout ça. Alors, ouais, elle a sa communauté, mais quand même, tu vois, genre... Enfin, je sais pas. On sait, nous, déjà, qu'on a peur de sortir dans la rue. T'imagines, en plus d'avoir peur des hommes, tu dois aussi te méfier des femmes parce que tu sais pas si au coin de la rue, tu vas pas tomber sur une queer un peu vénère qui va vouloir venir te faire la peau parce que t'es une terf, tu vois ce que je veux dire. Non, mais attends, mais...
Sympa, le drapeau trinque sur des kalachnikovs. Kill de terf, tout va bien. Voilà, la batte pour nous défoncer la gueule. Terf Slayer pour costume d'Halloween. Oh, des belles haches avec le drapeau trans.
On vit dans quel délire, tu vois. Genre, je suis certaine qu'une femme comme Debbie Hayton, elle serait écœurée, en fait, d'entendre tout ça. Et de savoir que par-dessus le marché, son nom, Marguerite Stern, est volontairement invisibilisé de la quatrième de couverture du livre de recueil de collage réalisé par Collage Féminicide Paris, entre guillemets, que je viens de découvrir, m'a bloqué sur Instagram, parce que je défends celle qui m'a invitée dans son atelier pour me transmettre sa technique, parce que je trouve ça grave de faire ça, mais je vais revenir dessus. Bref, un bouquin biaisé, édité par la maison d'édition de Noël, alors qu'elle est l'unique personne à qui l'on doit toute sa technique révolutionnaire d'activisme non violent, profondément reconnaissable, qu'elle a mis au point toute seule, une technique ultra puissante et, encore une fois, non violente. Je sais plus si j'ai déjà dit, mais je sais pas, je suis énervée là. Voilà, sur la quatrième de couverture, ça c'est incroyable parce que c'est sous-entendu que les feuilles A4, elles se sont collées subitement toutes seules sur le mur, tu vois, toutes seules comme ça, paf, et sous-entendu que les équipes de colleuses a subitement comme ça, tout le monde s'est retrouvé, s'est dispatché et est allé comme ça continuer ce truc qui est apparu comme par magie sur les murs de Paris. Non mais c'est un truc de ouf de faire ça. Donc je le dis et je le répète, on lui doit cette technique à l'origine, je cite, de ce renouveau des modes d'action féministe. À elle et à elle uniquement. Et quand on se dit féministe, et qu'en plus on se permet de donner des leçons de féminisme, genre, t'es pas féministe si tu n'inclus pas, Tu ne dois pas pratiquer le lynchage en règle d'une femme, d'une part, a priori ça semble évident, mais bon, pas pour tout le monde, ni non plus son invisibilisation, car ne pas nommer les femmes pour leur création leur a déjà fait que bien trop de mal à travers l'histoire.
Extrait de Héroïne de la rue, le livre de Marguerite Stern.
En grandissant, ils deviennent des colons. Ils deviennent ceux qui de la littérature ont retiré nos noms en brûlant nos écrits ou en faisant de nos conjoints les auteurs de nos œuvres. Ceux qui de l'histoire nous ont effacés en niant l'existence de nos actes ou en les attribuant à d'autres hommes. Idem pour les sciences. C'est comme ça que la brillante chimiste et biologique Rosalind Elise Franklin, qui a mené des travaux déterminants dans l'étude de la structure de l'ADN, s'est vue dépossédée de ses recherches par trois hommes qui ont obtenu un prix Nobel en utilisant ses travaux sans la citer. Invisibiliser une femme de sa création, ça porte un nom, ça s'appelle l'effet Mathilda.
Mathilda. Ça aussi, c'est dur à dire quand même.
Mais je vais en reparler un peu plus tard. Avant ça, je voudrais préciser le pompon, le clou de cette histoire, c'est que les droits d'auteur de ce livre, qui donc est au sujet des collages anti-féminicides, seront donc principalement reversés à une association pour la visibilité des personnes trans. Marguerite Stern l'a dit dans une story Instagram en réaction à la parution de ce livre, vous n'en avez rien à faire des femmes et vous ne le cachez même pas. Au risque d'être lourde, je rappelle encore une fois que le livre est rédigé par Collage Féminicide Paris.
Les cons, ça ose tout. Mais c'est même à ça qu'on les reconnaît.
Vous comprenez le niveau de gaslight et de perversion ? Interpelle Dora Mouto dans sa story qui expose que selon elle, et je suis tout à fait d'accord avec elle sur ce point, on dirait que le fait de verser les droits d'auteur à une asso trans est vraiment dans le but de la heurter pour lui dire « Ta création dont on t'a effacé finance les assos qui essaient de te détruire et te harcèlent et œuvrent à la destruction du mot femme ». Elle poursuit en rappelant que Marguerite Stern est celle qui a créé les collages féminicides et qui, par la suite, a pris la parole pour dénoncer la transmisogynie qui a infiltré le féminisme. Que c'est ça création, son jus de cerveau, sa technique est la partager avec des milliers de femmes et qui se trouve à présent à financer une asso qui œuvre à l'effacement du mot femme et des femmes dans la société et au niveau des lois.
Donc dans tous les cas, c'est des gens qui ont un comportement très toxique. La première stratégie de gaslighting, c'est quelqu'un qui va mentir à propos de ce qui s'est produit. Donc en gros, vous avez été témoin d'un événement avec cette personne, vous lui dites « la chose s'est passée ainsi », parce que vous le savez et vous l'avez vécu, mais cette personne vous dit « les choses se sont passées différemment ». Donc il vous raconte votre propre souvenir différemment. Et quand vous le contredisez, il va s'énerver. Par exemple, prenons le cas d'un couple avec une femme qui lui dit bah, « hier, t'as cassé une assiette », le mari va lui dire « non, j'ai pas cassé une assiette, c'est toi qui l'as fait tomber, pourtant c'est lui qui l'a cassé ». Et elle va lui dire « non, c'est toi qui as cassé l'assiette ». Et il va dire « non, 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 ça s'est pas passé comme ça, en fait, c'est toi qui as fait tomber l'assiette hier, et là tu dis que c'est moi, je sais pas pourquoi, t'es complètement folle », et ainsi de suite. Et quand elle va le contredire, elle va lui dire « non, je sais ce qui s'est passé, je l'ai vu », il va tellement s'énerver, et il va tellement soutenir avec une telle véhémence et intensité son point de vue erroné, que la femme, déjà, peut-être qu'elle va avoir peur, et peut-être qu'elle va finir par croire qu'il a raison, vu qu'il soutient son point de vue avec tellement d'autorité et tellement de véhémence, que peut-être qu'il a raison. Donc elle va finir par remettre en cause ses propres souvenirs. Et déjà qu'une fois, c'est violent psychologiquement de le vivre, mais si ça se produit tout le temps de manière répétée, bah, petit à petit, la femme n'aura plus, ou la personne qui subit ça, n'aura plus confiance en ses propres souvenirs. Deuxième stratégie de gaslighting, c'est une personne qui vous explique comment vous devriez faire, comment vous devriez réagir. Donc elle vous explique ce qu'il faudrait faire. Tu ne devrais pas réagir comme ça, mais comme ça. Tu ne devrais pas te comporter comme ça. En gros, les phrases que cette personne va dire, c'est « tu surréagis, tu te trompes, tu te fais des idées, tu es fou, tu es folle ». Et c'est aussi quelqu'un qui va vous accuser de faire ce qu'il fait. Par exemple, tu me manipules et me détruis psychologiquement. Tu me laisses aucune liberté, alors que c'est cette personne qui vous manipule et cette personne qui ne vous laisse aucune liberté. Donc en gros, c'est une personne qui vous dit comment vous devriez vous comporter, comment vous devriez penser et ce qu'est la réalité, alors que c'est complètement faux.
Voilà, maintenant je peux te parler de l'effet Mathilda. C'est quelque chose que j'avais donc observé depuis même quand j'étais à l'école. Hein. Je me disais bien, c'est marrant, on parle toujours des hommes, jamais des femmes. Ce qui avait d'ailleurs grandement nourri mon désintérêt pour des matières comme la littérature ou l'histoire ou même la philosophie ou même les sciences après tout finalement. Mais je connaissais pas le nom de ce procédé. Ça m'a été enseigné par Marfa Augusta, que Marguerite Stern a repartagé dans sa story, qui disait que cette invisibilisation de ce recueil de collages est un exemple parfait de l'effet Mathilda, donc.
Mathilda, oh, tu sens la fatigue de la meuf.
Qui est le fait volontaire et conscient de déposséder une femme de ses œuvres, de ses créations, pour les attribuer à des hommes nuls, ici en l'occurrence transidentifiés.
Est-ce que ça vous est déjà arrivé de faire une chose dont vous êtes hyper fier, un truc vraiment cool, et que quelqu'un d'autre soit récompensé à votre place pour ça? Un peu comme quand vous bossez à deux sur un PowerPoint, mais que la direction félicite seulement votre collègue. Ben vous devriez pas avoir trop de mal à comprendre l'effet Mathilda.
Il le dit vachement bien, lui.
Et c'est à cause effectivement de ce procédé hautement patriarcal, l'effet Mathilda, que les petites filles grandissent en pensant qu'en tant que femmes, elles ne peuvent pas être des leaders intelligentes et créatives dans tous les domaines, du scientifique à l'artistique. Parce que par quelques rares exemples à travers l'histoire entière de l'humanité, comme genre Marie Curie et Simone Veil, tous les noms des femmes ont été effacés. C'est pour cela qu'on passe beaucoup trop de temps à être de bonnes petites soldates du patriarcat, à penser que de toute façon on est faible et incapable, qu'on n'a ni la matière grise, ni les muscles, ni les armes pour nous battre, ou créer, ou inventer, et qu'au final, en 2021, on n'est pas plus avancé qu'au siècle dernier, on doit subir.
Et c'est précisément pour cela qu'il est primordial de défendre Marguerite Stern, d'empêcher l'invisibilisation de son nom car elle a montré à toutes les femmes qu'avec peu de moyens et sans aucune violence, où qu'elles soient, elles pouvaient faire entendre leur voix, interpeller tout le monde dans un lieu habituellement hostile pour elles, un lieu où elles ont plutôt l'habitude de se faire discrètes, la rue.
Je suis en colère parce que je trouve ça grave qu'on en soit là de nos jours. Et je suis d'autant plus en colère que je sais qu'une personne comme Debbie Hayton condamnerait fermement ses agissements et dirait un truc du genre « pas en mon nom, bitches, en fait. Vous êtes tous sauf héroïques à vous comporter de cette façon et je ne vous remercie pas, au contraire. » Je suis d'ailleurs certaine, en fait, j'ai que je pense, mais en vrai, je suis certaine, surtout après la lecture de son récent article sur The Closer, dont je t'ai parlé dans le dernier épisode, le tout dernier spectacle de Dave Chappelle, dont elle dit que sa cible, ce n'est pas nous, mais l'idéologie qui a germé autour de nous, une doctrine pseudo-religieuse qui demande à chacun de croire qu'un homme peut devenir une femme simplement parce qu'il le dit. Voilà, je vais boire un grand verre d'eau, parce que ça me fait du bien. Prendre encore une grande respiration. Et conclure cet épisode en te disant qu'il a été écrit dans l'intention de donner à Marguerite Stern toute la visibilité que certaines tentent de lui ôter et lui faire fémage pour tout ce qu'elle fait pour les femmes. Les collages, bien sûr, mais aussi ses actions féminines, les épisodes de podcast déments qu'elle produit et aussi son livre Héroïne de rue, publié par la maison Michel Lafon, un must-read de lecture féministe, ne serait-ce que parce que c'est le premier livre, du moins à ma connaissance, écrit à la féminine universelle, comme tu as pu l'entendre dans l'extrait que je t'ai lu. Voilà, j'avais envie de la remercier pour ce qu'elle fait pour moi, pour mes sœurs, pour ma mère, pour mes voisines, pour mes collègues, et lui dire combien son activisme est une source d'inspiration permanente depuis la première fois que je me souviens avoir vu une story d'elle. C'était l'action qu'elle avait fait à l'hôtel de ville. Anne Hidalgo était en train de parler. Elle s'est pointée, elle s'est mise tranquille sur la scène comme ça avec un panneau aux femmes assassines. fascinée et j'ai trouvé ça d'un courage mais tellement hallucinant, quoi. Je veux dire, je sais pas, moi je j'ai peur d'aller marcher en manif, j'ai peur de coller d'ailleurs, tout simplement, parce que dans ma carrière entre guillemets de colleuse, j'ai inventé un collage que tout le monde connaît, je pense, mais par contre j'ai eu le courage de coller qu'une seule fois. J'ai accompagné coller plus d'une fois, mais j'aime bien faire le gay, moi. Ça me faisait trop peur. Tout ça pour dire que je suis admirative, max, de son courage de prise de parole aussi, du coup, d'avoir exprimé ses positions fortes malgré les risques auxquels elle s'est exposée, toutes les insultes qu'il faut encaisser, sans compter la peur après de sortir de chez soi, surtout quand on sait que les gens ont notre adresse, le problème que ça représente du coup d'avoir de telles opinions publiques pour trouver un emploi, etc. Enfin bref, c'est grand.
Marguerite Akbar.
Et je suis convaincue que son comment dire, I just have that legacy. How do you say that in English, in French? Wait, excuse my French. Google Trad. Legacy. Son héritage, voilà, absolument. Son héritage va dépasser complètement cette incarnation. Pour moi, ça ne fait aucun doute. Mais voilà, j'ai envie qu'elle soit appréciée à sa juste valeur de son vivant. Je crois sincèrement qu'elle le mérite. Je voudrais t'énoncer les différents moyens de la soutenir. Bien sûr, il s'agit de la défendre à chaque fois que tu entends ou que tu lis quelqu'un qui cherche à la rabaisser, à l'agresser plus ou moins violemment sur les réseaux sociaux et dans la vie.
Il en va de même pour Dora Mouto.
Bien sûr, la suivre sur les réseaux pour lui montrer ton soutien.
Ça semble anodin, mais ça ne l'est pas du tout. Elle vient de se rendre compte que 60% des gens qui regardent sa story ne la suivent pas. C'est énorme.
Écouter son podcast et s'y abonner. Acheter son livre, bien sûr, et l'offrir à ton père à Noël. Et last but not least, la soutenir financièrement sur Patreon pour qu'elle ait les moyens de militer, ce qui, chez elle, encore une fois, n'est pas une simple activité extra, scolaire, extra travail, tu vois, c'est toute sa vie.
Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, surtout si tu es en désaccord avec moi, avec nous. Je pense que c'est comme ça qu'on fait avancer les choses, dans la mesure où, bien sûr, on se respecte et qu'on échange de véritables arguments, pas simplement des menaces de mort. Et ça, c'est vraiment pas un fantasme de Radfem. Je t'invite à visiter le site Terf is a Slur, dont le lien sera également dans la description de cet épisode, pour te rendre compte par toi-même de la violence de ce mouvement. À très bientôt pour un prochain épisode, et d'ici là, prends soin de toi.